Deuxième épître à Timothée. On pourrait lire dans le chapitre 1 et dans le chapitre 4. De Timothée, chapitre 1. On pourrait lire à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers dès mes ancêtres, avec une conscience pure, de ce que je me souviens si constamment de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant ardemment de te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie, me rappelant la foi sincère qui est en toi et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile. Verset 12. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne, mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement et il m'a trouvé. le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là, et tu sais mieux que personne combien de services il a rendus dans Éphèse. » Et on pourrait lire dans le chapitre 4 à partir du verset 9. « Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique. Crescens en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Or, j'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus et les livres, spécialement les parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la maison d'Onésiphore. Eraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus et Pudence et Linus et Claudia, et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. La deuxième épître à Timothée, la seconde épître à Timothée, est la dernière de celles qu'il a écrites. Il a écrit 13 ou 14 épîtres qui sont dans le Nouveau Testament, 14 si on compte celle aux Hébreux, bien qu'il ne soit pas dit que c'est Paul qui l'a écrite, donc 13 ou 14. Et du point de vue chronologique, c'est celle-ci, la seconde épître à Timothée, qui est la dernière. Donc, certainement que la plupart d'entre nous, nous savons la vie qu'a eu l'apôtre Paul. On sait comment il a été converti quand il allait vers Damas avec cette intention de persécuter les chrétiens, les croyants, avec quelle énergie il est persécuté. Et puis, c'est en acte 9 qu'on voit cela, il a été arrêté sur le chemin de Damas par cette vision qu'il a eue, et il a vu le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel, et il est tombé par terre, et il a entendu une voix, la voix du Seigneur qui s'est adressée à lui, qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et puis il s'est converti. Donc ce qui a commencé dans sa vie chrétienne a commencé par une rencontre, mais une rencontre exceptionnelle, parce que c'était une rencontre avec le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel. Personne, à part peut-être Étienne en Actes chapitre 7, personne n'a vu le Seigneur Jésus glorifié dans le ciel. Et l'apôtre Paul a eu le privilège de le voir, et on peut dire que ça a marqué, caractérisé toute sa vie et tout son service. Et notamment, il lui a été confié des choses extraordinaires. Il a reçu des révélations extraordinaires de la part du Seigneur glorifié. Et toutes ces révélations, il en fait part dans les épîtres qu'il a écrites. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a vu le Seigneur glorifié dans le ciel, que ça a caractérisé son service et son enseignement, et qu'il a eu des révélations célestes en rapport avec les plans célestes de Dieu, et notamment en rapport avec l'Assemblée, et qu'il a transmis tout son enseignement, ses révélations qu'il a eues, dans ses épîtres qu'il a écrites. Et on sait avec quelle énergie il visitait les différents pays qui existaient à l'époque et qu'il évangélisait et qu'il affermissait les croyants dans ces villes-là. Et on a parlé ce matin du Seigneur qui allait de victoire en victoire. Et quand on lit les Actes, on voit aussi Paul aller, pour ainsi dire, de victoire en victoire, même s'il y avait beaucoup d'opposition. Et il a fait un travail extraordinaire et des assemblées se sont créées, soit par son moyen, soit par d'autres moyens, à travers tout le monde d'alors. Et c'était le début du christianisme, le christianisme prospère du début. Et puis les années ont passé, et puis l'apôtre Paul a été mis en prison. On voit ça dans Actes chapitre 21-22. Il a été mis en prison à Jérusalem et il a passé des années en prison. À Jérusalem au début, puis dans d'autres villes, et puis il a été amené à Rome, prisonnier. Et il a été prisonnier à Rome dans des conditions, faciles à dire, mais relativement, paraît-il, confortables dans un premier temps, parce qu'il avait la possibilité de voir des gens, de recevoir des visites. Et puis, il a eu, semble-t-il, un moment de liberté suite à cette première captivité, et puis il a été de nouveau fait captif, prisonnier, et il a été dans cette deuxième captivité dans des conditions beaucoup plus difficiles, et c'est ce qui transparaît de la deuxième épître à Timothée, et donc des conditions beaucoup plus difficiles où il avait quasiment pas le privilège de voir d'autres personnes. Donc voilà aussi quelqu'un qui a eu un confinement long, au moins prisonnier, au moins 4 ans dans un premier temps, puis une deuxième fois fait prisonnier dans des conditions encore plus difficiles. Et il écrit donc, depuis cette deuxième captivité, cette dernière épître à Timothée. Et donc il lui ouvre son cœur. Et ce qui est important dans cette deuxième épître, c'est de voir que en fait, tout ce à quoi il avait travaillé jusque-là, les assemblées, l'évangélisation, les assemblées, eh bien, tout cela n'allait plus aussi bien qu'au début et que les choses se sont fort dégradées durant son vivant, durant sa vie. Et là, il est à la fin de sa vie, un vieillard, et il voit, en fait, tout le déclin qu'il y a eu du temps même de sa vie parmi les chrétiens, parmi la chrétienté. Et il ouvre son cœur à Timothée. Voilà un peu le contexte de la deuxième épître à Timothée. Alors, bien sûr, ce n'est pas le but maintenant de l'étudier en détail, mais on ne peut qu'encourager chacun à le faire. Et il y a beaucoup de choses dans cette deuxième épître, beaucoup d'exhortations. Mais ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est de regarder le fait qu'il y a une particularité dans cette épître, c'est qu'il y a beaucoup de noms de personnes qui sont donnés. Peut-être plus que dans les autres épîtres. Peut-être dans l'épître aux Colossiens, il y a pas mal de noms aussi qui sont donnés. Mais dans la deuxième épître à Timothée, ça ressort vraiment beaucoup. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'on voit souvent des noms qui sont donnés par deux. On pourrait dire des couples de personnes. Et c'est intéressant de voir ces personnes qui sont données et qu'est-ce qui est dit de ces personnes pour en retenir quelques instructions. Alors il y a des exemples qui sont encourageants, qui sont positifs, et d'autres qui sont négatifs et qui sont des avertissements, mais on a aussi besoin d'avoir des avertissements. Donc Dieu nous encourage par des exemples positifs et il nous avertit par des exemples négatifs. Alors, par exemple, on voit dans ce qu'on a lu dès le début, on pourrait dire un premier couple de personnes, c'est Paul et Timothée. Et Paul dit, verset 1, 2, pardon, « Timothée, mon enfant bien-aimé ». Et c'est une appellation que Paul fait de Timothée. Il appelle plusieurs fois « mon enfant bien-aimé » ou « mon véritable enfant dans la foi ». Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette relation entre Paul, l'apôtre, ce vieillard, et Timothée, ce jeune homme, et que l'apôtre l'appelle mon véritable enfant ou mon enfant bien-aimé. Personnellement, j'ai souvent compris et pensé que c'était parce que l'apôtre Paul avait été le moyen de la conversion de Timothée. Mais il semble en fait que ce n'est pas tout à fait juste, cette manière de penser, même si c'est un détail, ce n'est pas une grande importance. Mais il semble c'est pas forcément que Paul ait été l'instrument pour convertir Timothée, mais que la relation, on peut dire, père-enfant entre Paul et Timothée, pas forcément celle de la conversion, du moyen de la conversion, mais c'est plutôt la proximité de pensée entre les deux. Et que, en fait, Timothée, c'était l'enfant de Paul au sens spirituel, en ce qu'il avait les mêmes intérêts, le même caractère, le même but que l'apôtre Paul. C'était la continuation de l'apôtre Paul dans un sens spirituel. Et donc, c'est beau de voir deux personnes d'âge différent. Il y avait un qui était un vieillard, il s'appelait un vieillard, et un beaucoup plus jeune, Timothée, et de voir ce lien spirituel entre ces deux personnes et Paul qui peut appeler Timothée « mon enfant bien-aimé » dans un sens spirituel. C'est quelque chose aussi qui nous touche et qui nous... Voilà, on peut avoir des liens spirituels, on devrait avoir des liens spirituels, même à travers les générations. Et des plus jeunes avec des plus âgés, avoir les mêmes centres d'intérêt d'un point de vue spirituel, de manière à ce que un plus âgé puisse appeler un jeune « mon enfant bien-aimé ». Et on voit que Paul, il était attaché à Timothée, et Timothée, il était caractérisé par deux choses, on le voit dans les versets 3 à 5, il était caractérisé par les larmes et la foi. Timothée, c'était un jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait, il avait certainement une certaine maturité, mais il était jeune, assez jeune, et il avait de la foi et des larmes. Dans ce sens qu'il avait, avec Paul, ils pouvaient partager leur tristesse, les larmes, et Paul était heureux de trouver dans ce jeune Timothée quelqu'un qui le comprenait, qui comprenait ses peines et ses souffrances, parce qu'il en avait, Paul, des peines et des souffrances, en voyant ce qu'étaient devenues les assemblées, la chrétienté dès son époque, et il pouvait le partager avec Timothée, qui était sensible à cela, et il dit « Je me souviens de tes larmes ». Mais il y avait aussi la foi, pas simplement quelqu'un qui pleurait, qui était triste, mais aussi quelqu'un qui avait de la foi. Il était attaché aux choses divines, aux choses de Dieu, au Seigneur lui-même. Et même s'il avait visiblement besoin d'être stimulé, d'être encouragé, parce qu'il avait tendance à se laisser décourager, il y avait quand même la foi chez Timothée. Donc, premier couple de personnes, Paul, Timothée, et Paul qui appelle Timothée « mon enfant bien-aimé ». Et puis, verset 5, un deuxième groupe de deux personnes, Loïs, la grand-mère de Timothée, et Eunice, sa mère. Et donc, Paul dit à Timothée, « Oui, je me rappelle de ta foi sincère, de ta foi. Je suis persuadé que tu as la foi, une foi sincère, comme ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. » Et c'est quelque chose de touchant, parce qu'il me semble que on voit pas tellement ces choses-là, ces relations-là dans d'autres épîtres. Peut-être, mais à ma connaissance, je ne vois pas. Mais, et c'est beau de voir que dans un contexte si solennel, eh bien, l'apôtre Paul, il parle à Timothée de façon si intime et lui dit « Je me souviens même de ta mère et de ta grand-mère, qui étaient des femmes de foi. » Et, alors, que dire par rapport à ça ? À mon avis, il y a deux choses qu'il faut se dire. Premièrement, il faut dire aux plus jeunes, aux enfants, ce n'est pas la foi de vos parents qui vous sauve. Vous pouvez avoir des parents et des grands-parents pieux, qui aime le Seigneur, attaché au Seigneur, mais ce n'est pas ça qui vous sauve. Vous devez vous convertir vous-même. Vous devez vous repentir et croire au Seigneur Jésus vous-même. Même si vous êtes dans une famille chrétienne, avec des parents et des grands-parents pieux. Donc, premier point, dire, ce n'est pas la foi de vos parents qui vous sauve. Mais, il y a un deuxième aspect des choses, c'est la foi de nos parents, de nos grands-parents, eh bien, elle a une influence sur nous. Elle ne nous donne pas le salut, elle ne nous donne pas la vie éternelle, c'est que la foi au Seigneur Jésus et la repentance qui nous la donne, mais d'une manière ou d'une autre, la foi de ceux dont nous descendons, eh bien, elle a une influence sur nous. Et on le voit clairement ici. Cette foi que tu as, Timothée, eh bien, c'est un petit peu la suite de celle de ta grand-mère et de ta mère. Donc, il y a bien un lien. Mais le lien, c'est pas « ils ont cru, donc toi, tu es automatiquement sauvé ». Mais cette foi que tu as, eh bien, il y a quand même un lien avec celle de tes parents, de ta mère et de ta grand-mère. Et c'est beau aussi de voir que c'est la mère et la grand-mère qui sont en question. Ce n'est pas le père. Et il semble que Timothée, il avait grandi dans une famille où il y avait des dissensions. Dans ce sens que son père était grec et sa mère était croyante. Donc on peut penser, voilà, on ne peut pas être catégorique là-dessus, mais on peut fort penser qu'il y avait un élément de dissension dans sa famille. Et donc il a grandi avec ça, mais il y avait de la foi de sa grand-mère et la foi de sa mère, et ça l'a marqué. Et ça a eu une influence sur lui. Donc prenons ça d'un côté pour les parents, grands-parents, comme un encouragement que notre foi, votre foi, elle a une influence. Et pour les jeunes aussi, pour ceux qui sont enfants, eh bien, tenez compte de l'exemple de ceux qui sont devant vous. Donc on voit ces deux personnes nommées ensemble, Loïs et Eunice. Et puis, alors on continue vers la fin du chapitre 1. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces versets, mais on se limite à ces personnes. Et on voit verset 15 que Paul dit « Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. » Donc là, on voit la tristesse dans le cœur de Paul. Il dit « Tu sais, Timothée, tous ceux qui sont en Asie, donc certainement c'est l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, là où il y avait beaucoup d'assemblées, notamment les sept assemblées d'Apocalypse 2 et 3, eh bien tous ceux-ci-là, ils se sont détournés de moi. » Il ne dit pas qu'ils se sont détournés du Seigneur, de Christ, ils n'ont pas cessé d'être des chrétiens, mais ils se sont détournés de Paul. Peut-être que l'enseignement de Paul ne leur convenait plus, c'était trop, peut-être trop céleste, pas assez à leur goût, et ils se sont détournés de lui. Et il le voit avec tristesse, et il le dit à Timothée, tu vois, ils m'ont tous abandonné. Ils se sont tous détournés de moi, et en particulier, il y a Phygèle et Hermogène. Donc, sans rentrer dans beaucoup plus de détails sur ces deux personnes, paraît-il que la signification de leur nom en grec peut donner d'autres informations, mais je ne souhaite pas rentrer là-dedans. Retenons ceci, que l'apôtre Paul, beaucoup lui avaient tourné le dos. Et il le voit avec tristesse, et il cite deux des personnes que Timothée devait connaître, Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Et puis, versets 16 à 18, il y a un nouveau couple de personnes, on pourrait dire, Onésiphore et Paul. Et qu'est-ce que il dit au sujet d'Onésiphore? Donc c'était un croyant, et c'est un croyant qui avait montré, lui, un grand intérêt pour l'apôtre Paul, au point qu'il était venu à Rome, et quand il était venu à Rome, il avait cherché très soigneusement l'apôtre Paul, qui était dans sa prison, et il l'avait trouvé. Et ça, ça a été un immense encouragement pour l'apôtre Paul, de voir un chrétien, un croyant, dont on ne sait pas grand-chose, c'était peut-être pas un homme, un croyant exceptionnel en apparence, mais c'était un croyant qui était très attaché à l'apôtre Paul. Et il est venu à Rome, qui était une immense ville, et il y avait des milliers de prisons dans Rome, paraît-il. Et il n'y avait pas de... C'était pas comme aujourd'hui, avec beaucoup de moyens techniques pour savoir, dans des fichiers informatiques, pour savoir qui est où, etc. Il y avait des prisonniers dans plein de prisons, au fond de prisons sombres, etc. Et ce Onésiphore, il avait cherché l'apôtre Paul très soigneusement. Il avait pris du temps, de la peine, pour aller le voir, le trouver, et il avait réussi. Et donc, ça a été un grand encouragement pour Paul. Et voilà, Paul parle de lui en bien. « Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu dans Éphèse. » Donc, quel aussi, ça c'est un encouragement, la relation Paul-Onésiphore. Paul isolé, Paul au fond de sa prison, et voilà un croyant, Onésiphore, qui va se démener pour aller le rencontrer. Ensuite, je mentionne dans le chapitre 2, au verset 17, il est question de... Il y a un nouveau couple de personnes qui est cité. C'est Hyménée et Philette qui se sont écartés de la vérité. Donc c'est toujours ce même contexte spirituel. Chapitre 1, à la fin, « Tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. » Et ici, il parle de... Hyménée et Philette qui se sont écartés de la vérité. Et donc, ce sont toujours, c'est pour nous un avertissement. C'est qu'il y a toujours le danger pour nous de nous écarter de la vérité, de nous écarter de ce que Dieu nous a révélé, de ce que Dieu nous a fait connaître. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre à cœur. Et surtout qu'on est dans un monde qui en fait... ni qu'il y a une vérité. Il y avait un temps au XXe siècle qu'on appelait le modernisme, les temps modernes, où les gens, même dans le monde, reconnaissaient qu'il y avait une vérité, mais que cette vérité, c'était on pouvait l'atteindre par la science, par la connaissance, la science notamment. Et aujourd'hui, dans le XXIe siècle, on est dans ce qu'on appelle les temps post-modernes. Donc les temps modernes, plutôt 20e siècle, il y a une vérité certes, mais c'est la science qui nous fait découvrir cette vérité. 21e siècle, les temps post-modernes, il n'y a plus de vérité. Chacun a sa vérité. Et c'est l'environnement intellectuel dans lequel nous vivons. Qu'on aille dans les écoles, dans les universités, c'est... Voilà, on ne parle plus de vérité. On parle plutôt des aspects ou de chacun sa vérité. Donc on est dans cet environnement-là, et c'est pour ça que même en rapport avec la parole de Dieu, on doit toujours être sensible. Et on voit ici dans la deuxième épître à Timothée qu'il y avait cet écart par rapport à la vérité. Et donc il y a deux personnes qui sont citées. Je ne rentre pas dans plus de détails. Et dans le chapitre 3, on a... Verset 8 aussi. De la même manière dont Jannès et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi, etc. Donc là, de nouveau, deux personnes citées ensemble, Jannès et Jambres, qui ont résisté à Moïse, donc c'est une référence au livre de l'Exode, et certainement à la période où Moïse cherchait à délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, et c'était le temps où Moïse parlait avec le Pharaon, et le Pharaon résistait, le Pharaon s'opposait, s'endurcissait, et on se rappelle que Moïse avait fait quelques miracles, et qu'au début, il y avait les magiciens de l'Égypte qui imitaient les miracles de Moïse. Et c'est quelque chose qui nous frappe toujours. Comment les magiciens, comment ils pouvaient faire pour imiter ce que Moïse faisait et faire dans une mesure la même chose que lui et lui résister. Eh bien, donc il semble que ce verset 8 du chapitre 3, il fasse référence à ce moment-là dans l'Exode, où il y avait, et là les noms sont donnés, qui ne sont pas donnés dans l'Exode, Jannès et Jambrès qui résistèrent à Moïse. Ils devaient faire partie de ces magiciens. Et Paul dit à Timothée, eh bien, de la même manière que Jannès et Jambrès ont résisté à Moïse autrefois, attention, il y a aujourd'hui, parmi les chrétiens, dans la chrétienté, il y a des hommes qui résistent à la vérité. Prends garde à cela. Donc là, avertissement pour nous, nous pouvons faire face, même au sein de la chrétienté, à des personnes qui résistent à la vérité. Qui s'écartent, chapitre 2, verset 18, qui résistent, chapitre 3, verset 8. Et puis, on en vient à la fin du chapitre 4 de ce que nous avons lu. Alors, à la fin du chapitre 4, à partir du verset 9, il y a les salutations. Et c'est toujours précieux de regarder et d'étudier les salutations. Et notamment dans l'épître aux Colossiens, la deuxième épître ici à Timothée, où il y a peut-être plus de salutations que d'habitude dans les épîtres, elles ont un prix, une saveur toute particulière. Et il y a des choses qui sont très encourageantes, et il y a d'autres choses qui sont des avertissements, toujours. Et surtout, quand nous les lisons là, dans la deuxième épître à Timothée, rappelons-nous toujours que ce sont les derniers mots de l'apôtre Paul. Le dernier regard qu'il jette sur la chrétienté, les dernières paroles d'encouragement qu'il donne à Timothée. Et elles ont donc un prix, une saveur toute particulière. Alors, encore une fois, on ne rentre pas dans tous les détails, mais je souligne peut-être deux, trois exemples. Il y a tout d'abord, verset 10. Donc il dit d'abord à Timothée, « Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi. » Donc il y a ce désir toujours dans Paul d'avoir son ami, son enfant, près de lui, pour pouvoir parler avec lui. Et c'est quelque chose aussi qui est important pour nous, c'est que les contacts personnels, les contacts, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, ils sont toujours très importants. Et on fait face à une situation où c'est de plus en plus difficile d'avoir des contacts en étant en présence les uns des autres, et on devrait les apprécier et les rechercher d'autant plus. Et là, on voit Paul qui désire avoir Timothée auprès de lui. Et il dit, verset 10, « Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. » Donc là, je dirais le couple de personnes Paul-Démas. Démas, c'était un... Il était de Colosse, je crois, et il était lié à l'apôtre Paul, on le voit dans l'épître aux Colossiens, et peut-être dans l'épître à Philémon. Et Démas, il a, verset 10, il a abandonné Paul. Pareil que dans la fin du chapitre 1, il n'est pas dit qu'il avait abandonné Christ, le Seigneur. Donc peut-être que extérieurement Démas était toujours un chrétien, et il se disait toujours chrétien, mais il avait abandonné Paul. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Il a aimé le présent siècle. Et ça, c'est aussi un avertissement pour chacun de nous, pour moi le premier, c'est le présent siècle. Le présent siècle, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous sommes, le monde actuel. Et le présent siècle, il n'est pas du 21e siècle ou du 20e siècle, comme on disait tout à l'heure, il est depuis, il est bien plus vieux que ça. Mais il faut être conscient que le présent siècle, il a son attrait pour nous. Et pas que pour les jeunes, pas que pour les enfants, même pour les hommes plus avancés en âge. Et il y a toujours le danger pour nous d'aimer le présent siècle. Et alors chacun a ses faiblesses. On peut être piégé par son travail, l'amour de son travail. On peut être piégé par l'amour du sport, peut-être. On peut être piégé par le monde des divertissements. On peut être piégé par plein d'autres choses. Le monde de la culture, le monde... Chacun peut y mettre quelque chose. Mais on a beau être âgé, peut-être, se sentir fort spirituellement, attention, on peut aimer le présent siècle. Et c'est un danger pour nous tous. Et Démas avait abandonné Paul pour cette raison. Je me souviens qu'un frère nous avait enseigné, nous avait dit, vous savez ce que veut dire Démas ? Démas, ça veut dire populaire. Démagogie, un démagogue, etc. Le démas, en grec, c'est populaire. Et le danger, le piège pour chacun de nous, c'est on aime être populaire, on aime être aimé, et c'est dans un sens humain. Mais si on ne prend pas garde, le désir d'être aimé des autres, d'être populaire, d'être apprécié des autres, peut devenir un piège. Et il semble que Démas, selon le nom qu'il porte, ça a été un piège pour lui, et il a aimé le présent siècle. Ensuite, il y a d'autres noms qui sont donnés, et on peut s'arrêter sur verset 11. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. » Marc et Paul, un autre couple de personnes. Et celui-là, il est très encourageant. Alors, pour ceux qui se souviennent, Marc, qui est appelé aussi Jean-Marc, c'était le neveu de Barnabas, et il avait accompagné, dans le premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas, au début. Et puis, très rapidement, il avait fait demi-tour, il avait laissé Paul et Barnabas en disant qu'il retournait à Jérusalem. Et puis, au début du deuxième voyage missionnaire, il y avait eu un désaccord entre Paul et Barnabas, parce que Paul disait « On ne prend pas Jean-Marc avec nous, parce qu'il nous a abandonnés dès le début du premier voyage. » Et Barnabas disait « Non, on le prend. » Et il semble que Barnabas, il avait des considérations personnelles. C'était son neveu, et je ne rentre pas dans plus de détails, mais il semble que Barnabas, il était lié avec Jean-Marc pour des raisons peut-être pas simplement spirituelles, mais personnelles, familiales. Il n'a pas eu l'énergie de dire non. Et Paul a été ferme. Et on pourrait dire aujourd'hui, ah, mais il a été trop dur. Non, il ne semble pas que Paul ait été trop dur. Il a été ferme. Et on voit que la fermeté de l'apôtre Paul, elle a eu son fruit, on pourrait dire les choses comme ça, dans ce sens que Jean-Marc, Marc, eh bien, il a changé. Il y a un travail qui s'est produit en lui. Et maintenant, Paul peut dire à Timothée, « Amène Marc, prends-le avec toi et amène-le, car il m'est utile pour le service. » Une fois, au début, il avait été inutile, mais un travail de la grâce de Dieu s'était produit en lui. Et il est restauré, on peut dire, dans le service. Et maintenant, Paul souhaite l'avoir auprès de lui. Et il demande à Timothée de l'amener auprès de lui, car il l'aimait utile pour le service. Donc, Paul et Marc, d'abord, une relation difficile. Paul a dû dire non, a dû être ferme, mais le travail s'est produit dans le cœur de Marc, et l'apôtre Paul l'a reconnu pleinement et a été heureux de dire à Timothée de le prendre pour l'amener auprès de lui. Et puis, peut-être pour terminer, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Juste une remarque. Verset 13. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade, chez Carpus, et les livres, spécialement les parchemins. » C'est étonnant de voir que dans une épître du grand apôtre Paul, ils disent à Timothée, « Quand tu viendras me voir, n'oublie pas mon manteau que j'ai laissé là-bas, chez Carpus, en Troade, et prends aussi les livres. » Et on peut se poser, peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à faire ici dans une épître si importante et qui est conservée jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi parler de son manteau et de ses livres? Bien, il y a un frère qui a dit ceci, et qui est touchant. On pourrait penser que c'est un détail qui n'est pas important. Et ce frère, il a dit, « Ah, si on a... si... » J'essaye de ne pas déformer. Il a dit, « Si les habits que nous portons et les livres que nous lisons avaient eu plus d'importance pour nous, dans le sens qu'on a mis plus d'exercice par rapport à ces choses, eh bien, on se serait bien rendu compte que ce ne sont pas des détails inutiles. » Donc, les habits que nous portons, le manteau que nous portons et les livres que nous lisons, ce ne sont pas des détails anecdotiques. Ce sont des choses importantes. Et l'apôtre Paul en parle. Et voilà, pour terminer, on pourrait s'arrêter sur verset 19. « Salut Prisca et Aquilas et la maison d'Onésiphore. » Prisca et Aquilas, encore un couple de personnes qui ont eu un rôle très important dans la vie de l'apôtre Paul. Prisca et Aquilas, c'était un couple. Prisca, l'épouse, Aquilas, le mari. On ne voit pas qu'ils aient d'enfants, qu'ils aient eu des enfants, peut-être qu'ils en ont eu, mais en tout cas, on ne le voit pas. Et ils ont été très liés avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul les mentionne 6 fois. En tout cas, ils sont mentionnés 6 fois dans le Nouveau Testament, 3 fois dans Actes chapitre 18, et une fois dans 1 Corinthiens 16, une fois dans Romains 16, et la dernière fois ici. Prisca et Aquilas, un couple, un mari et sa femme, qui ont été, depuis le début jusqu'à la fin, des fidèles amis, des proches de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur a fait entière confiance par rapport à tous ces exercices qu'il a eus. Il les a même pris avec lui comme compagnons de voyage un certain temps. Et c'est un couple qui a eu, là où ils ont habité, à Rome notamment, à Éphèse aussi semble-t-il, ils ont reçu l'assemblée dans leur maison. L'assemblée qui se réunit dans leur maison. Et donc ils ont aimé l'assemblée au point de la recevoir chez eux. Et ils ont été fidèles compagnons de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, je crois en Romains 16, ils ont exposé leur coût pour ma propre vie. Eh bien, l'apôtre Paul les mentionne une dernière fois ici. Salut Prisca et Aquilas. Donc, l'apôtre Paul, au fond de sa prison, et avec la perspective de la mort clairement devant lui, verset 17 et 18, il est clair que l'apôtre Paul est parfaitement conscient de ce qu'il attend. Il va être martyr. Il va finir sa vie en martyr, mais il dit pas je vais finir en martyr, il dit le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul dit, il dit pas ils vont me mettre à mort au cours des jeux romains, ils vont faire de moi un jouet pour amuser toutes ces personnes dans les gradins de l'époque romaine. Non, il dit, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. C'est comme ça qu'il voit la mort. Non pas comme un échec, non pas comme un martyr entre les mains des hommes, mais il voit sa mort comme la délivrance du Seigneur de toute mauvaise œuvre et que le Seigneur le conserve pour son royaume céleste. Voilà le regard de l'apôtre Paul. Il a ces choses merveilleuses devant lui, même s'il est dans une prison obscure, et du sein de sa prison, il se rappelle Prisca et Aquilas. Ils ont été des compagnons fidèles pendant ma vie. Je me souviens d'eux, salue-les. Je les aime encore, ils m'ont été fidèles et je ne l'oublie pas. Voilà un peu les sentiments qu'a eu l'apôtre Paul. Et Voilà, quelques remarques sur cette deuxième épître à Timothée qui est très précieuse et que chacun peut relire et étudier et en retirera beaucoup de bien.